Donald Trump se présente comme l'ami indéfectible d'Israël, rappelant son rôle dans les accords d'Abraham, son rôle dans la libération des otages et l'établissement d'un cessez-le-feu à Gaza, et dénonçant l'antisémitisme sur les campus américains. Pourtant, c'est bien sous son mandat que la droite radicale américaine a vu se consolider un écosystème où prospère complotisme, révisionnisme sur la Seconde Guerre mondiale, récit explicitement hostile aux Juifs. Autour de la matrice MAGA, hein, qui est une sorte de réacteur à l'intérieur duquel remue beaucoup de mouvances, on trouve des isolationnistes, des gens obsédés par les élites globalisées, une constellation d'influenceurs et d'élus banalisent désormais des discours antisémites de plus en plus explicites. Alors, pour éclairer ce paradoxe, je suis très content que l'on puisse recevoir Sébastien Lévy, qui est un journaliste qui vit à New York et qui va revenir avec nous sur les recompositions profonde de cette droite américaine. Alors, je parlais d'un paradoxe, je voulais dire par là, évidemment, paradoxe qui voit d'un côté une sorte de philo-israélisme affiché, hein, et puis un relâchement du tabou antisémite de l'autre. Alors, bonjour Sébastien.
Bonjour Stéphane.
Alors, comme je le disais, vous êtes journaliste, vous êtes sur Radio J, vous écrivez régulièrement aussi dans la presse sur la politique américaine, sur la situation des Juifs américains. Et je voudrais avec vous que l'on aborde ce fait que je viens d'introduire en partant d'un fait très récent. Et je dois dire que c'est le fait qui, moi, m'a dit, qu'on s'est dit à Cadenne, tiens, il faudrait parler de ce phénomène. Il y a quelques jours, un célèbre influenceur de droite, Nick Fuentes, a sur ses réseaux critiqué, je cite, l'oligarchie juive. Il a fustigé, je cite, la religion de la Shoah aux États-Unis. Il a déploré, je cite, la répression de l'antisémitisme. Ce sont ses formules. Alors, qu'est-ce que quelqu'un comme Nick Fuentes représente et qu'est-ce qu'indique cette déclaration prononcée donc en novembre 2025 sur l'état du mouvement néo-réactionnaire, est-ce qu'il faut le désigner comme ça, qui gravite autour du Trumpisme. C'est quelqu'un de proche de Trump, je crois. Hein. Alors, comment comprendre sa capacité d'influence, ce type de discours prononcé par Nick Fuentes, sur une partie de la base républicaine?
Alors, Nick Fuentes, effectivement, c'est un cas extrêmement intéressant. Alors, il faut savoir que ça n'est pas le cœur de la base MAGA. Il reste quand même très minoritaire, mais pas marginal. Et je pense que c'est important vraiment de démarrer comme ça. C'est un influenceur. Il fait partie de l'écosystème d'influenceurs de droite extrême et d'extrême droite qui gravitent autour de Donald Trump. Et finalement, que Donald Trump aura permis à ces gens-là de retrouver une certaine jeunesse et une certaine légitimité. Ça ne date pas uniquement de son second mandat, ça a démarré dès son premier mandat. Et je pense qu'il faut revenir à ce qui s'est passé en 2015-2016. Le Trumpisme, MAGA, Make America Great Again, c'est avant tout un rejet de l'establishment. C'est un rejet des normes, c'est un rejet du politiquement correct, c'est une libération de la parole, raciste mais aussi antisémite. Et je pense que dans ce rejet de l'establishment, il a donné ce qu'on appelle en anglais une permission structure, vraiment la permission de casser tous les tabous. Et un des tabous, notamment des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme n'a jamais disparu des États-Unis. Il était très très fort avant la Seconde Guerre mondiale. Simplement, il était déclaré persona non grata. Il n'avait pas droit de cité dans le débat public américain. Donald Trump a permis de casser un certain nombre de codes, notamment le code de la grossièreté, le code de la misogynie, mais aussi de permettre aux antisémites de retrouver une certaine jeunesse et de sous couvert, je dirais, de rejet des élites, de rejet de l'establishment, d'une certaine pensée conspirationniste, eh bien, vous avez aussi un certain nombre d'influenceurs d'extrême droite qui se sont engouffrés dans la brèche. Nick Fuentes en fait partie. Vous avez d'autres personnages comme Tucker Carlson, comme Candace Owens, comme Daryl Cooper.
Qui sont plus importants que Nick Fuentes.
Alors, Nick Fuentes a beaucoup, beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Il compte beaucoup et il incarne justement ce rejet de l'establishment, ce rejet du politiquement correct. Il se trouve que lui, son angle, c'est clairement l'antisémitisme. Et ça trouve un écho auprès de jeunes qui ne sont pas nécessairement à la base antisémites, mais qui voient quelqu'un qui dit tout haut, voilà ce qu'on aimerait entendre. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette libération de la parole qui a permis à Nick Fuentes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, c'est un proche de Donald Trump. Alors, on ne peut pas dire que Donald Trump le voit tous les jours. Simplement, Donald Trump l'a reçu à dîner, alors quand il n'était pas de nouveau réélu, je pense que c'était il y a un an. Mais il n'a jamais désavoué ce dîner avec Nick Fuentes.
Non, mais j'allais vous poser la question d'une manière générale. Il se présente comme un ami d'Israël, un protecteur des Juifs américains, mais il refuse de désavouer publiquement Nick Fuentes, mais aussi Carlson, mais aussi Owens, mais aussi toutes sortes d'influenceurs qui peuvent avoir ce type de propos. Alors, comment comprendre cette cette ambivalence profonde entre l'affichage d'une défense des Juifs et en même temps un refus d'attaquer et de mettre en question ceux qui diffusent les pires clichés, les pires tropes antisémites. Et d'ailleurs, il faut approfondir ce que sont ces clichés, ces tropes. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi un désir de réhabiliter le Troisième Reich. J'ai lu la semaine dernière dans un journal aussi considérable que The Atlantic un texte qui parlait des influenceurs qui veulent réhabiliter la figure d'Hitler. Excuse-moi, c'est une question un peu large, mais vous pouvez effectivement nous éclairer sur ces deux points.
Alors, d'abord le premier point sur Donald Trump. Donald Trump, c'est le président de sa base. Il protège sa base à tout prix. Il avait dit en 2015 ou en 2016, il était saisi par un fait. Il avait dit, même si je tuais demain quelqu'un sur la 5e avenue, je ne perdrais pas un seul supporter. Et donc, il y a chez lui une loyauté envers sa base. Il ne veut jamais décevoir sa base la plus extrême. Non pas qu'il soit nécessairement d'accord avec eux, simplement, il ne veut jamais les froisser, donc il ne les désavouera absolument jamais. Il sait qu'à l'extrême droite, ils ont enfin trouvé leur candidat, quelqu'un qui osait parler vrai. Et donc, cette base-là, il peut être en désaccord avec eux, sans doute, mais il ne va jamais les désavouer, en tous les cas publiquement. C'est quelque chose dont il est incapable. Il sait ce qu'il doit à sa base. Il faut savoir qu'en 2015-2016, Donald Trump n'avait strictement aucune chance, selon tous les, ce qu'on appelle les pundits ou les experts politiques. La seule façon pour lui de remporter la primaire républicaine à l'époque, ça a été d'aller chercher des électeurs qui d'habitude ne votaient pas aux primaires républicaines parce qu'ils ne se sentaient pas représentés par ce parti. Et il a réussi à capter leur attention, il a réussi à capter leur voix. Depuis, il leur est fidèle, il ne les désavouera jamais. On pourrait citer Charlottesville. Trump vient d'être élu dans son premier mandat. Vous avez une manifestation de la droite extrême avec des gens qui sont dans la rue en disant « Jews will not replace us », les Juifs ne nous remplaceront pas. Et on demande à ce moment-là à Donald Trump, enfin quand même, vous désavouez ses supporters. Et il dit, mais vous savez, dans cette foule et dans les contre-manifestants, vous aviez the very good people on both sides. Donc, il y avait des bonnes personnes des deux côtés. C'est-à-dire, il est incapable de désavouer des néo-nazis à partir du moment où des néo-nazis disent du bien de lui. Ça ne veut pas dire qu'il est néo-nazi, ça ne veut pas dire qu'il est antisémite. Simplement, il y a une incapacité quasiment psychologique de Donald Trump à désavouer ceux qui ont rendu sa victoire possible. Maintenant, vous parliez de la réhabilitation du Troisième Reich, donc ça n'est pas encore une fois quelque chose que Donald Trump veut faire, mais il faut savoir que vous avez, dans une partie de l'extrême droite américaine, vous avez un rejet de l'ordre américain post-Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas uniquement par rapport aux Juifs, qui est la naissance de l'État-providence. Vous avez évidemment les droits civiques par rapport aux droits américains. Vous avez depuis les années 60 une contre-révolution conservatrice qui progresse petit à petit et qui veut casser un certain nombre d'acquis qui ont été faits sur les droits civiques, mais aussi sur les droits sociaux. Et vous avez en fait un certain nombre de coups de boutoir qui ont été donnés par la droite américaine à différents moments. La première personne qui a utilisé le slogan MAGA, c'est Ronald Reagan. Make America Great Again. Ça veut dire quoi le again? Ça veut dire un retour à un âge d'or. Pré-années 60. Ronald Reagan n'avait pas en tête les droits civiques. En revanche, il avait les droits sociaux. Et donc, il n'a cessé de vouloir casser l'État-providence. Et puis ensuite, vous avez eu une évolution de la droite. En 1992, vous avez un Pat Buchanan qui, lui, pour le coup, a pris la vulgate antisémite. Vous avez aussi dans la nouvelle droite, aujourd'hui, un certain racisme, en tous les cas, une volonté de revenir sur les droits civiques qui ont été en fait accordés aux Noirs américains. Donc vous avez en fait tout un écosystème de la droite qui veut casser un certain nombre d'acquis qui ont été faits post-Seconde Guerre mondiale. Et il n'est pas étonnant que quand vous tirez le fil de la pelote, vous ayez aussi parmi les plus radicaux le fait de dire « mais après tout, l'ordre Seconde Guerre mondiale, on a voulu casser ce qu'il y avait avant ». Avant, il ne faut pas oublier, il y avait Lindbergh, il y avait America First. Il faut quand même se souvenir du slogan America First de Donald Trump, qui certes n'est pas féru d'histoire, mais il sait aussi envoyer les bons signaux à ses électeurs. C'est un rappel, c'est une évocation de Charles Lindbergh. Et donc, c'est un retour à un certain antisémite. Et vous avez effectivement, parmi les influenceurs les plus à droite, vous avez aujourd'hui, par exemple, dans l'émission de Tucker Carlson, qui est un influenceur très important, ancien Fox News,
des millions de personnes,
un historien que je ne connaissais pas, Daryl Cooper, qui dit, et repris par Tucker Carlson, « Et si le méchant de la Seconde Guerre mondiale n'était pas Hitler, mais Churchill ?» Et vous avez aujourd'hui un révisionnisme qui dit « Peut-être qu'on aurait pu s'entendre avec Churchill, trouver certains qui disent « On aurait pu peut-être trouver une autre solution au problème juif ». Et peut-être que la Shoah, c'est plus un concours de circonstances qui a fait tout ça. Donc, Tout ça, en fait, tout cet antisémitisme qui existait dans vraiment les tréfonds de la droite américaine, qui n'avait pas droit de cité, qui avait été complètement ostracisé par le Parti républicain, aujourd'hui, il relève la tête, non pas au sein du Parti républicain officiel, et je pense qu'on y reviendra, mais en tous les cas à la frange. Ce ne sont pas des gens qui sont au cœur du Parti républicain, mais qui influencent de l'extérieur. Le souci, c'est que Donald Trump, au contraire de tous ses prédécesseurs républicains, évidemment, ne veut pas les désavouer pour les raisons qu'on a évoquées. Et c'est la raison pour laquelle ces gens-là ont droit de citer et aujourd'hui ont un discours qui infuse dans la société, notamment conservatrice. Et c'est en ce sens que c'est un nouveau paysage auquel on assiste aujourd'hui et qui est effectivement très inquiétant.
Alors, précisément, c'est ce qu'on a envie de comprendre. Vous parlez des tréfonds de cette base républicaine. Vous parlez de quelques influenceurs, vous parlez de phénomènes isolés, marginaux. En même temps, ces images nous arrivent, elles nous stupéfient, et on se demande la place qu'elles prennent dans l'écosystème général. Est-ce qu'il y a des effets de contamination du discours général, Trump n'en a pas conscience? Moi, je voudrais vous citer une idée de Ted Cruz, hein, qui alerte, lui, sur l'installation de clichés antisémites au sein du Parti républicain. Et alors, est-ce qu'on assiste à un phénomène massif ou pas? Est-ce qu'on assiste à un moment de rupture interne où une recomposition silencieuse du conservatisme américain peut vraiment sédimenter cette base antisémite? Ou est-ce que, finalement, on s'inquiète d'une manière excessive, mais ça va rester aux marges de ce monde politique?
Je pense qu'on est plus, aux marges, en tout cas. Ça a infusé. Ça a infusé pourquoi? Parce que vous avez quasiment aujourd'hui la redite de ce qui s'est passé en 2015-2016. Vous avez d'un côté MAGA et vous avez de l'autre le Parti républicain. Alors il se trouve qu'évidemment, le Parti républicain est devenu de plus en plus MAGA. Simplement, vous avez au sein du monde MAGA trumpiste originel, vous avez des gens qui sont d'une certaine façon plus MAGA que MAGA. Et donc ça veut dire plus MAGA que MAGA, ce sont des gens qui disent non, le vrai trumpisme originel, c'est revenir à America First. C'est revenir à l'isolationnisme. Et évidemment, dans l'isolationnisme, vous avez quoi? Vous avez évidemment la fin du soutien à Israël. Et puis, vous avez de l'autre côté, vous avez autre chose qui est le rejet de l'establishment, le rejet des normes traditionnelles.
Les élites.
Et évidemment, lorsque vous creusez un petit peu, quand vous allez dans le conspirationnisme, lorsque vous allez dans le rejet des élites, de l'ordre établi, vous avez aussi les juifs. Et aujourd'hui, si je devais schématiser, vous avez l'ordre MAGA qui est un ordre, on va dire, nationaliste, anticosmopolite, assez conspirationniste, rejet de l'establishment, et de l'autre, le Parti républicain, plus attaché aux normes traditionnelles. Et là-dedans, vous avez prenons par exemple le lobby AIPAC, qui aujourd'hui cristallise aujourd'hui la tension entre le Parti républicain...
Il faut rappeler ce que c'est que...
Donc AIPAC, c'est le principal lobby pro-Israël, qui joue un rôle très important dans la politique américaine, pas un rôle évidemment fondamental comme les antisémites ou les antisionistes le disent, mais c'est un lobby comme un autre, et qui joue un rôle, c'est-à-dire pour soutenir des candidats, surtout républicains, mais aussi démocrates. Or, pour la base MAGA, la plus radicale, par exemple, une Marjorie Taylor Greene, aujourd'hui, AIPAC a vraiment tous les maux de la terre, et donc ils estiment que AIPAC, aujourd'hui, ça montre la puissance d'un État étranger sur la politique américaine. Donc ça va très très loin. Et de l'autre, vous avez le Parti républicain plus traditionnel qui, lui, veut continuer à être soutenu par l'AIPAC, qui n'est pas du tout dans un rejet classique de l'establishment, qui est pour le soutien à Israël. Et vous avez donc aujourd'hui cette tension qui dépasse aujourd'hui uniquement les réseaux sociaux. Ça existe au sein du Parti républicain. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de candidats, notamment dans les États conservateurs les plus radicaux, une certaine remise en cause du lobby AIPAC, du soutien à Israël, qui n'est pas nécessairement quelque chose d'antisémite. Mais il faut savoir que Trump a ouvert la voie. Quand on parle America First, les pro-Israël aux États-Unis se sont rassurés en disant « Oui, mais c'est America First, sauf Israël ». Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que le America First inclut Israël. Et pourquoi je vous dis que ça n'est pas marginal? Vous avez quelqu'un comme J.D. Vance, le vice-président.
Alors, j'allais vous poser la question sur
qui, lui, pour le coup, est sur cette ligne. J.D. Vance ne se définit pas vraiment pro-Israël. Pour lui, Israël est un pays comme un autre. C'est un pays qui doit rentrer dans le rang si nécessaire. Et alors, je ne dis pas encore une fois que dire ça, c'est antisémite. Simplement, évidemment, quand vous allez un petit peu plus loin, vous pouvez dire... Aujourd'hui, Israël a trop de poids dans la politique étrangère. Pourquoi? C'est à cause du lobby juif, c'est à cause du pouvoir juif. Et donc, il faut casser cette structure de la puissance juive aux États-Unis, de la puissance d'Israël. Et là, évidemment, c'est là où ça rencontre les conspirationnistes les plus antisémites qui disent, évidemment, le problème des États-Unis, c'est le lobby juif, c'est l'influence juive qui a rendu aussi possible l'immigration de masse, les droits civiques. Donc c'est là, vous avez en fait cette union qui est extrêmement dangereuse entre une base isolationniste et une base très antisémite qui peuvent se retrouver. Et pour le coup, là, on n'est plus dans quelque chose de marginal. On est quelque chose qui pourrait demain prendre véritablement le contrôle de l'appareil du Parti républicain.
Bah, et si je comprends bien, enfin si j'ai bien compris, la tension dont vous parlez, non seulement ce n'est pas marginal, mais ce n'est pas seulement entre le pouvoir et la base, mais si, via la personnalité de Jude Evans, c'est quelque chose qui remonte au sommet du pouvoir.
C'est au sommet du pouvoir. Mmh. Clairement, on n'est pas uniquement à la frange, on n'est pas uniquement même dans les électeurs, on est au sein même du pouvoir américain. Mmh. Et vous avez d'autres gens au sein du pouvoir américain. Vous avez évidemment des isolationnistes extrêmement forts, un Peter Navarro par exemple. D'une certaine façon, alors c'est un paradoxe, un Stephen Miller qui lui-même est juif, mais qui pour le coup a une politique qui promeut vraiment une politique d'extrême droite extrêmement dure envers les immigrés, qui lui aussi est vraiment pour un agenda le plus radical possible, America First, avec le moins d'intervention possible et de soutien possible à l'étranger, et ça inclut Israël. Et
là, même pour lui.
Alors, encore une fois, lui ne se définit pas comme juif, et lui d'ailleurs, il est renié par sa famille. C'est vraiment un cas assez particulier. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui estime que America First, oui, ça englobe tout, et ça inclut notamment le fait de devoir casser demain l'alliance privilégiée avec Israël, parce que dans la matrice America First, ça veut dire aucun pays ne peut avoir une influence démesurée sur les États-Unis. Et c'est là où, effectivement, il y a des passerelles extrêmement fortes entre l'aile isolationniste et l'aile la plus antisémite. Mmh. Et c'est là, encore une fois, où vous avez quelque chose qui est en train de monter et qui est effectivement inquiétant, non seulement pour l'État d'Israël, mais aussi pour le bien-être des Juifs, qui ne se rendent pas nécessairement compte de ce qui est en train de se jouer. On sait ce qui se joue à l'extrême gauche, mais ça se joue aussi à la droite, au sein du Parti républicain. En ce sens, je dirais que les Juifs sont pris en tenaille entre deux extrêmes.
Oui, on va y venir. C'est la question que je voulais vous poser, parce qu'évidemment, on parle énormément de l'antisémitisme qui vient de l'extrême gauche, et ça a été cela qui était au devant de la scène dans la politique américaine ces dernières années. Mais avant ça, m'est venue une question. Vous connaissez bien Israël, où vous allez souvent, vous connaissez bien la France, vous vivez à New York, donc vous êtes un juif errant qui naviguait
mais
dans
pas patrie.
mais qui naviguait dans un triangle assez intéressant pour considérer ce que Trump représente. Parce que est-ce que les juifs d'Israël, est-ce que les juifs en France, vous semble-t-il, ont le sentiment de ce qui se passe autour de Trump concernant l'antisémitisme est perçu? Parce qu'il est apparu, c'était Cyrus en Israël, et c'est un héros ici pour beaucoup de juifs français. Comment vous analysez ça compte tenu de la complexité de la situation, de la manière beaucoup plus ambiguë, ambivalente du phénomène que vous venez de nous raconter?
Clairement, enfin, je veux dire, Trump est le seul pays où Trump est plus populaire qu'Obama. C'est Israël dans le monde. Je crois que c'est le seul pays au monde. Donc effectivement, il a un statut tout à fait à part. Après, voilà, j'en veux pas. Alors voilà, ma femme est israélienne, j'ai beaucoup de famille en Israël. Je pense qu'il y a un prisme israélien de voir uniquement ce qui est bon pour Israël. Et j'ajoute, ce qui est bon pour Israël à court terme. Ce qui se passera dans 15 ou 20 ans, alors, ça n'est pas le sujet. Et c'est là où je pense qu'il y a une erreur d'analyse catastrophique. Parce que ce qui vient demain dans l'alliance israélo-américaine avec ce qu'est en train de faire Donald Trump est extrêmement dangereux. Je pense que les Israéliens, ça va plus loin, n'ont pas compris le tort, pour le coup, qu'a fait aussi Benjamin Netanyahou en privilégiant le Parti républicain et en particulier Trump par rapport au Parti démocrate. Aujourd'hui, l'effondrement de l'image d'Israël aux États-Unis, il est absolument catastrophique auprès du Parti démocrate. Mais là où il y a une erreur d'analyse, à mon avis, très forte en Israël sur ce qu'a apporté Donald Trump, c'est que ça ne garantit pas une bonne image d'Israël auprès même des jeunes républicains.
Aujourd'hui, même des jeunes évangélistes.
Et même des jeunes évangélistes.
D'après certains articles que j'ai pu lire, il y a quelque chose qui se passe dans le monde évangéliste par rapport à Israël. On sait que les évangélistes ont toujours été très proches d'Israël, que Netanyahou s'est appuyé sur eux, qu'ils ont financé des colonies. Enfin, on connaît ce mouvement-là. Qu'est-ce qui se passe chez les jeunes évangéliques, et on pourrait dire là, effectivement, à plus long terme, qui risque de nuire à Israël, selon vous?
Alors, un chiffre aujourd'hui, vous avez 53% des Américains en général qui ont une mauvaise image d'Israël. C'est la première fois dans l'histoire du pays. C'est environ 70% des démocrates et c'est quand même 35% chez les républicains. Mais lorsque vous zoomez chez les républicains, je n'ai pas le chiffre des évangéliques, mais c'est assez proche, c'est 35% des républicains qui ont une mauvaise image d'Israël, mais c'est 50% des moins de 50 ans. Je pense que si on zoomait plus, si on prenait uniquement les 18-35 ans, ça ne serait pas 50% qui ont une mauvaise image, ça serait sans doute 60% des jeunes républicains, on va dire, de 18 à 35 ans, qui ont une mauvaise image d'Israël. Donc il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans les tréfonds du Parti républicain, qu'un Trump, avec ses grandes déclarations d'amour, n'est pas capable d'épauler. Pour le coup, là, ce n'est pas la faute de Trump, c'est plutôt la faute d'un Netanyahou. J'ajoute que les images de Gaza, évidemment, ce sont des images qui ont fait mal, qui ont fait mal aussi aux évangéliques, parce que pour le coup, eux aussi sont touchés par ces images, et ils sont d'autant plus touchés par ces images qu'eux estiment soutenir énormément Israël. Et pour le coup, leur soutien, ils estiment que c'est antinomique avec leurs propres valeurs, en tout cas chez les jeunes, avec ce qui se passe.
Ça, c'est un discours explicite chez eux.
Ça existe en tous les cas. En tous les cas, il ne faut pas croire qu'il y a une espèce de frontière et que c'est uniquement dans le prisme intersectionnel woke que les images de Gaza peuvent en fait avoir un impact. Je pense que ça a été une fausse perception que vous avez en Israël en disant c'est uniquement sur les campus, c'est uniquement à l'extrême gauche. Ça n'est pas vrai. Et puis j'ajoute autre chose. Vous avez aussi chez les républicains, et là on revient à notre point précédent, les républicains sont globalement de plus en plus isolationnistes. Ils sont prêts à faire une exception sur Israël, mais si cette exception sur Israël, si ce soutien affirmé des Américains à Israël, ça conduit à certaines images qu'on a pu voir à Gaza, là, vous avez quelque chose qui est extrêmement compliqué. En disant, on est prêt à faire une exception, cette exception, elle sert à financer une guerre à Gaza que nous soutenons en partie, mais pas complètement, avec des images parfois extrêmement dures. Et là, on arrive à un point de rupture et à un point de fracture, et en disant, mais est-ce que ça vaut le coup de faire le fameux « America first, sauf Israël » quand on voit comment la guerre de Gaza a été menée sur certains points. Encore une fois, je ne remets pas en cause la légitimité de la guerre de Gaza en soi, mais un certain nombre de ses modalités, de ce qui s'est passé. Et donc, cette tension, elle est en train de monter. Je pense que c'est une erreur, clairement, de la part du gouvernement d'Israël, de penser que tout va bien à droite et le danger est à gauche. C'est faux. Il se passe quelque chose de profond sur la perception d'Israël dans la société américaine en général, et les jeunes en particulier, et en ce sens, ça touche évidemment, ça touche la droite également, et notamment les évangéliques. Donc, d'ici une ou deux générations, le pari de Netanyahou qui a été de dire « je lâche les juifs américains qui sont trop libéraux pour moi pour me focaliser sur les évangéliques » est sans doute un pari qui risque d'être perdant, est extrêmement dangereux, parce qu'il aura notamment perdu les juifs américains, mais demain la droite, et donc on ne sait pas qui demain soutiendra Israël aux États-Unis.
Je voudrais qu'on vienne sur cette idée des deux fronts auxquels sont confrontés les juifs américains. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça comme ça? Encore une fois, et on a beaucoup, beaucoup parlé, analysé ce qui se passait sur les campus dans la gauche américaine. On a fait beaucoup d'émissions sur Academ là-dessus. Ça a été vraiment une prise de conscience douloureuse que de voir la manière avec laquelle la vie intellectuelle américaine et la jeunesse des campus pouvaient articuler des discours souvent extrêmement simplistes et où l'antisionisme était plus que problématique. Et là, vous nous rappelez qu'en ce moment, et quand je dis en ce moment, c'est vraiment, on est à la fin de l'année 2025, quelque chose bouge de manière vif à la droite et à l'extrême droite. Quel est ce sentiment d'étau? Comment est vécu le sentiment de l'étau par les juifs américains? Alors, on peut parler de New York, hein, où vous habitez, mais au-delà de New York, la côte ouest, comment c'est perçu? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est écrit dans la presse américaine juive sur ces questions-là?
Alors là, je pense encore qu'il faut reprendre un peu, il faut repartir du temps long, au temps long, c'est-à-dire 10 ans. Jusqu'en 2015, pour faire simple, le ratio des actes antisémites entre la France et les États-Unis par habitant, par nombre de juifs, on était environ à la louche de 1 à 10. Aujourd'hui, on est de 1 à 3. Mais c'est important de savoir que la hausse des actes antisémites, elle n'a pas commencé en 2023, elle a commencé en 2015. On était environ à 1000 actes antisémites jusqu'en 2015. De 2015 à 2018, on est passé de 1000 à 2000. Ensuite, de 2020 à 2022, on est passé de 2000 à 4000. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu la libération de la parole dont on a parlé de 2015 à 2017. Là, vous avez eu une explosion des actes antisémites qui venaient notamment et surtout de l'extrême droite.
Ouais, ça, c'est très original et très particulier aux États-Unis,
hein, exactement,
par rapport à la France.
Exactement. Ensuite, vous avez eu l'explosion des actes antisémites aussi et des propos antisémites, notamment sur les réseaux sociaux de 2020 à 2022, le Covid. Clairement, là, vous avez une explosion de la parole conspirationniste. Et je reviens encore en 2000, ce qui s'est passé 2018, attaque de la synagogue de Pittsburgh, 11 morts.
Par un suprémaciste blanc.
Et cas très intéressant, qui accusait les Juifs de favoriser l'immigration. L'immigration en fait, des pays du tiers-monde qui allait mener demain au grand remplacement. C'était clairement son axe. Ensuite, vous avez eu la synagogue de Poway 2019. Là aussi, un acte d'extrême droite. Je crois que vous avez eu un mort. Et donc, on arrive ensuite en 2023. Et donc, ça veut dire, si on la fait courte, vous avez eu un quadruplement des actes antisémites entre 2015 et 2022 qui venaient surtout de l'extrême droite. Et puis ensuite, 2023-2025, là, on passe de 4000 actes antisémites à 10 000 actes antisémites. Donc, en fait, les actes antisémites ont été multipliés par 10 en 10 ans. Et là, pour le coup, de 4 000 à 10 000, ça vient surtout de l'extrême gauche et des islamistes, même si vous avez quand même dans le lot de l'extrême droite. Je pense que ces chiffres-là, ça montre bien l'étau dans lequel sont les Juifs américains. Ils sont coincés entre, évidemment, l'antisémitisme d'extrême droite dont on a parlé, qui est en gros un antisémitisme nationaliste, anticosmopolite, America first. Et puis de l'autre étau, évidemment, les Juifs, non pas comme le cosmopolite, mais au contraire, c'est-à-dire le juif comme l'oppresseur, dominant. Le colonisateur blanc.
Le super blanc.
Le super blanc, c'est-à-dire c'est l'exact opposé en fait.
Je dis le super blanc parce qu'il y a des textes qui théorisent le juif comme super blanc.
Le super blanc, le super oppresseur. Et donc oui, il y a cet étau aujourd'hui dans lequel sont les juifs. Alors ça n'empêche pas évidemment, on vit notre vie, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la tranquillité dont jouissaient les juifs jusqu'à 2015-2016, elle était terminée, mais j'insiste, elle ne s'est pas... elle ne s'est pas évaporée à partir du 7 octobre. C'est avant, vous avez eu clairement une dégradation extrêmement forte. Et puis à partir de 2023, vous avez le fait que, ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que les alliés traditionnels, effectivement, des Juifs, qui sont plutôt libéraux politiquement aux États-Unis, vous avez eu énormément d'alliés historiques des Juifs qui se sont détournés des Juifs. Eva Illouz en a très, très bien parlé. Et donc, vous avez aujourd'hui une situation qui est évidemment extrêmement compliquée. C'est un véritable étau. J'en avais parlé dans un texte, c'est vraiment entre, si je devais schématiser, entre le marteau wokiste et l'enclume trumpiste, vous avez clairement aujourd'hui une situation qui est extrêmement périlleuse pour les Juifs américains. Et puis encore une fois, un chiffre, le ratio des actes antisémites par rapport à la France, c'était l'ère de la tranquillité absolue, ça n'est plus le cas aujourd'hui pour les Juifs.
Je vous pose une dernière question, tout ça a été absolument passionnant, il y a une dernière question qui évidemment... me vient pour conclure. Vous avez parlé de la politique à court terme et de Netanyahou et de Trump dans une certaine mesure. Trump ne veut pas dénoncer certains types de discours, donc ça veut dire qu'il ne pense pas à la manière avec laquelle ces discours peuvent contaminer l'espace politique sur plusieurs années. Bon, on est dans de la politique à court terme et du côté de la politique américaine et du côté de la politique israélienne. Reste à savoir d'ailleurs ce qu'on pourrait dire de la politique européenne, mais c'est une autre affaire. Si on envisage, une politique à plus long terme, est-ce que vous envisagez une généralisation d'un discours anti-Israël aux États-Unis, mais sur les deux pôles de l'échiquier politique, hein, à gauche, à l'extrême gauche, à droite, à l'extrême droite. Est-ce que c'est ça que vous craignez au fond? Est-ce que c'est ça que vous voyez pointer et contre lequel vous essayez de vous informer?
C'est une vraie inquiétude. C'est une vraie inquiétude. Et là, pour le coup, il faut parler très rapidement du système politique américain qui fonctionne. Je vais être un peu technique, mais la grande majorité des circonscriptions aux États-Unis, vous en avez 435 pour les députés, la grande majorité sont découpées de telle façon qu'elles sont sûres à 80%, c'est-à-dire elles sont soit très démocrates, soit très républicaines. Et vous êtes élu tous les deux ans. Votre principal danger lorsque vous êtes un élu démocrate ou républicain, ça n'est pas d'être ce qu'on appelle challengé par le parti d'en face, c'est d'être challengé à votre droite quand vous êtes à droite et à votre gauche quand vous êtes à gauche, c'est-à-dire avoir quelqu'un plus pur que vous. Et ça veut dire que dans cette optique-là, vous allez toujours avoir un test de pureté ultime d'aller encore plus aux extrêmes. Et un des moyens aujourd'hui d'aller plus aux extrêmes et de plaire à sa base, c'est Israël. Des deux côtés. D'un côté, parce que vous dites, moi, à droite, je ne suis pas soumis à une puissance étrangère, America first. Et de l'autre, je suis contre l'État génocidaire et je suis contre, là aussi, le soutien, je soutiens des armes américaines pour soutenir l'oppression des Palestiniens. Et donc, en ce sens, Moi, ma crainte, c'est que c'est un petit peu la solution de facilité. Lorsque vous voulez challenger le candidat en place, vous le faites sur l'angle d'Israël, parce que là, vous savez que vous allez avoir énormément d'audience, vous allez avoir l'attention des médias, et vous allez pouvoir avoir de l'argent qui arrive pour justement challenger les partisans, les élus qui sont en place. Et ça, pour le coup, c'est un vrai danger. J'ajoute une chose. Je pense que même au niveau présidentiel, là, on ne parle pas au niveau du Congrès, mais au niveau présidentiel, ma crainte, c'est notamment au sein du Parti démocrate, j'ai du mal à imaginer demain le candidat du Parti démocrate se dire « je suis pro-Israël ». C'est-à-dire qu'il le sera peut-être dans les faits, mais en tout cas dans la parole, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de se dire totalement pro-Israël et d'avoir par exemple l'investiture du Parti démocrate. Pour le coup, j'insiste, c'est aussi à cause de la politique de Netanyahou qui a ostracisé le Parti démocrate, qui a rendu Israël infréquentable avant même Gaza. Et donc, c'est avec les atteintes à la démocratie en Israël, le poids de l'establishment orthodoxe, pour toutes ces régions, Israël a perdu beaucoup, beaucoup de soutien au sein du Parti démocrate, avant même Gaza, donc c'est compliqué.
Et aussi parmi les Juifs.
Et là, c'est aussi, évidemment, un énorme danger aussi, le fameux divorce et la perte d'intérêt d'un certain nombre de Juifs américains historiquement très attachés à Israël, mais qui aujourd'hui ne reconnaissent plus ce pays et qui s'en détournent de plus en plus. Et ils s'en détournent d'autant plus que le pays est attaqué parfois très injustement. Donc là aussi, on avait parlé d'étau. Ils sont pris en étau entre un gouvernement israélien qui ne les reconnaît pas et une opinion très à gauche qui, pour le coup, ne les considère plus comme des alliés. Donc c'est une position très inconfortable. Et puis je terminerai sur les candidats républicains. Est-ce qu'un candidat républicain, demain, pourra encore se présenter comme pro-Israël? Je pense qu'il y a un peu plus de temps au sein du Parti républicain dans une élection présidentielle. Mais là aussi, il est fort possible qu'à droite, vous ayez des candidats républicains. Ce sera le cas si c'est J.D. Vance, qui devra donner des gages à l'aile la plus isolationniste et de dire « Non, non, mais j'arrête également le soutien à Israël ». Donc pour toutes ces raisons, il y a énormément de raisons qui font qu'Israël aujourd'hui est une ligne de fracture et qui risque d'isoler durablement le pays. Donc il faudrait une autre émission pour savoir ce qui pourrait éventuellement être fait pour inverser cette tendance. Mais c'est vrai qu'à court et moyen terme, ça n'est pas extrêmement encourageant.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Sébastien Lévy. C'était absolument passionnant de vous écouter, arriver tout droit de New York pour nous faire ce compte-rendu sur la situation assez inquiétante sur l'antisémitisme aux États-Unis qui arrive de tous les côtés.
Arrive de tous les côtés.
Merci infiniment.
Merci.